Bonjour! Bienvenue à épisode 5 de Québec quoi? Avec vos animateurs Gabriel Robichaud et...
Charles Lefebvre.
Salut Charles!
Salut Gabriel!
Eh bien, comme vous avez remarqué, la semaine dernière, on a pris une petite pause. Faut bien prendre des vacances de temps en temps, profiter du beau temps, le petit peu de beau temps qu'on a eu pour être en pleine forme, pour discuter du sujet chaud de la semaine. Charles, c'est quoi notre sujet chaud cette semaine?
Un de mes sujets de prédilection, le salaire minimum.
Le salaire minimum. Puis un sujet qui est quand même à la une, qu'on entend parler peut-être pas nécessairement tout le temps, mais qui revient à maintes reprises. D'ailleurs, le salaire minimum, c'est la raison pour laquelle je suis déménagé au Québec en 1996, parce qu'il y avait un écart à l'époque de 2 $ entre le salaire minimum au Nouveau-Brunswick et le salaire minimum du Québec. Puis 2 $ l'heure dans une semaine, ben ça faisait 80 $. Puis c'était assez pour m'amener à Montréal.
Les gens votent avec leurs pieds, puis on est l'exemple vivant.
Les gens votent vraiment avec leurs pieds. Fait que t'as qu'à faire des petites jobines déplaisantes à 5 $ l'heure. Moi, j'aimais bien mieux ça à 7 $ l'heure.
Le sujet est d'actualité, même si on n'en parle pas constamment dans les médias, parce que c'est une revendication récurrente de divers groupes sociaux qui cherchent en appeler à divers politiciens d'implanter un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Le fameux 15 $ de l'heure. Aux États-Unis, on avait vu des grèves dans des McDonald's. On a vu des syndicats faire des marches là-dessus. Des politiciens qui sont engagés à ça, de l'implanter dans leur administration d'ici, par exemple, 2018, 2020, 2022. Ils ont tout un bel échéancier là, pour mettre ça en place. Il y a des études qui sont parues récemment. Ça a été un peu ça l'élément déclencheur pour parler de ce sujet. C'était des chercheurs de l'Université de Washington qui suivaient l'implantation des politiques du salaire minimum à Seattle, qui s'est fait en plusieurs étapes. Donc, au début, on est passé à 11 $, puis à 13 $, puis eux étudiaient le marché, voir comment ça se comportait, c'était quoi l'effet réel. Bon.
Puis ça fait quand même un moment là, que ça se passe à Seattle, c'est quelques
années. Oui, parce que le débat sur le salaire minimum fait rage dans les universités et dans la société civile depuis des décennies.
Ben, moi, je m'en souviens, 20 ans passés, on parlait du
salaire minimum. Ah oui, c'est l'éternel débat.
Ça va jamais arrêter, en fait. Tant qu'il y aura un salaire minimum, on va débattre pour l'augmenter. Puis si jamais il n'y en a pas, on va débattre pour en mettre un. Fait que ça va jamais arrêter.
Ben. Pour ce qui est de la littérature scientifique là-dessus, c'est assez partagé. On retrouve quand même beaucoup d'études qui vont dans toutes les directions. Il n'y a pas de consensus sur la question. Par contre, on voit des tendances se dessiner. Puis généralement, là, ce qui ressort sur les effets à long terme, c'est que l'implantation d'un salaire minimum élevé va avoir plus d'effets néfastes que positifs. Et c'est ce que l'étude de Seattle montrait. Malheureusement, on ne saura pas pour la suite des choses parce que la ville de Seattle a coupé le financement à l'Université de Washington pour continuer de suivre l'effet de ses politiques. Donc, je ne sais pas si c'est politique, à savoir qu'ils n'aimaient pas les résultats de l'étude. Alors, on dit « on scrape ça! » ou bien si c'est une autre raison obscure qu'on ne connaît pas.
Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que les études démontraient jusqu'à ce temps-là?
Ben, jusqu'à maintenant, ce qui est ressorti de l'étude de l'Université de Washington sur l'économie de Seattle en particulier, c'est que comme le dit, au fond, la théorie classique en économie, si tu augmentes le prix de quelque chose, il va s'en consommer moins. Donc, le salaire minimum a augmenté, ça a réduit les revenus globaux de ces gens-là d'à peu près 125 $ par mois. Parce que soit il y avait moins d'heures, ou bien il y a eu... Il n'y a pas tant eu de mise à pied, quand on regarde l'étude, mais il y a juste eu des coupures de temps. Donc, parce les gens travaillaient moins.
Les entrepreneurs ont dû... écoper leur perte, en quelque part, ou compenser pour leur perte de cette façon-là.
Mais là, la question qui est vraiment intéressante, c'est de savoir, est-ce que les gens sont véritablement intéressés par un débat d'idées ou plutôt c'est une position idéologique sur laquelle ils vont rester campés parce que ça ils se sentent bien. Je comprends, on parlait des chevaliers de la vertu dans le premier épisode. Puis c'est une position socialement vertueuse que de défendre un salaire minimum à 15 $. Quand tu mets ça sur Facebook, là, oh que t'as des likes!
C'est un peu arbitraire, je sais pas, le 15 $ ben, l'heure...
Le 15 $, c'est qu'il y a plusieurs études là, qui montraient que c'est à peu près ça que ça prenait pour vivre décemment. Et pour ce que ça veut dire, là, en impliquant plusieurs critères pour avoir tel pourcentage du revenu vers le logement, tel pourcentage du revenu vers l'alimentation, bon... l'iris avait calculé que ça tourne autour de 15 à 50. Mais tu vois, c'est qu'il y a un écart entre ce que les gens doivent avoir puis ce que le marché est prêt à payer. Le 15$, effectivement, il est tout à fait arbitraire. On pourrait mettre 20$. Tant qu'à faire, pourquoi pas 1000$? Dès que tu pousses l'idée à son extrême, on voit que ça devient rapidement ridicule. Les lois sur le salaire minimum, je pense qu'il y a une certaine confusion sur leur objectif. Leur but n'est pas de donner des jobs. C'est pas ça qui va travailler les gens. Leur but est de réguler les conditions de travail des gens qui ont déjà un job.
Ouais.
C'est pas une loi qui aide les gens qui cherchent un emploi, là. Au contraire. Ce que montrent les études récentes, là. On parle pas des affaires des années 80, là. Des affaires récentes, là. Montrent pratiquement à chaque fois, là, que les groupes qui sont désavantagés le plus par les lois sur le salaire minimum, puis les lois du travail de façon plus générale, c'est les travailleurs peu qualifiés, beaucoup d'immigrants, donc, et les jeunes, de 16 à 24 ans. Ça devient difficile à justifier. Comment tu fais pour monter dans la hiérarchie du travail si t'es pas capable d'atteindre le premier barreau? Parce que t'es pas capable de justifier la productivité nécessaire pour demander le salaire minimum.
Fait que toi, tu stipules que si on augmente le salaire minimum, l'employeur, lui, va vouloir un employé qui va avec son salaire.
Oui.
Que si tu augmentes à 15$ l'heure, peut-être que ton serveur dans ton restaurant, tu veux quelqu'un qui a étudié en hôtellerie ou quelqu'un qui a au moins une idée de qu'est-ce qui se passe.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre les coûts et les bénéfices. Ils sont interreliés. Et les gens pensent que dès qu'une entreprise, tu deviens immédiatement millionnaire. Mais quand on regardait, c'est l'Institut statistique du Québec qui a publié ça il y a quelques mois, on regardait le nombre de temps moyen que travaille un entrepreneur versus sa rémunération, puis il était pas loin du 10$ de l'heure, eux autres. Ça demande beaucoup de temps. Et il y a une correspondance entre ce qu'eux sont prêts à payer pour que des gens viennent les aider. Je donne un exemple. Quelqu'un part une entreprise, là, une manufacturière, la personne fait de la couture, ou elle répare des ordinateurs, peu importe le petit commerce, là. La personne est seule. C'est souvent comme ça que l'entreprise commence. Elle commence seule. Éventuellement, les activités augmentent. La personne se retrouve plus en mesure de fournir pour répondre à la demande et est forcée d'embaucher. On ne paye pas du monde juste pour le plaisir, là, hein? C'est une dépense. Alors le but, si les gens pouvaient le faire tout seuls, ils le feraient. Ça leur coûterait moins cher, mais ils n'ont pas le choix parce que la demande le justifie. Alors là, ils embauchent quelqu'un. Si on voulait juste donner des jobs, là, on pourrait faire comme en URSS dans le temps, payer du monde à creuser des trous. Hein, puis si on voulait créer beaucoup de jobs, on pourrait leur faire creuser les trous avec des cuillères. Ça, hein, ça garde du monde occupé longtemps.
Mais ça, c'est une tactique que j'avais vue durant les Olympiques qu'il y avait eu au Japon, les Olympiques d'hiver, où au lieu d'embaucher de la machinerie pour faire les trails de ski puis les pentes, c'était du monde payé avec des râteaux qui s'en venaient. Puis justement, c'est une des raisons qu'ils donnent, c'est pour la création d'emplois.
Ouais, mais c'est sûr que si on veut que... Ça dépend du résultat qu'on veut. Si on veut une économie productive, le moins d'entraves on met sur les entrepreneurs, puis sur les travailleurs aussi, parce qu'ultimement, aujourd'hui, l'attitude la plus virtuelle que tu peux avoir, c'est d'être pro-consentement. Et le capitalisme, de façon plutôt intéressante, est la doctrine économique qui est fondée sur le consentement. Il n'y a aucune activité économique qui peut se faire sans deux parties consentantes. Tout simplement. Et malheureusement, le capitalisme a peu de supporters parmi la gauche vertueuse en ce moment. mais le fait demeure que si on veut aider les jeunes travailleurs, puis les travailleurs peu qualifiés, c'est pas en leur empêchant de graver le premier barreau qu'on va le faire. Imaginons une échelle. Là. Premier barreau, là, ça prend pas grand-chose. C'est vraiment la base, c'est le poste d'entrée. C'est cela qui te permet d'avoir une première expérience de travail, d'avoir à gérer des collègues, un supérieur, des clients, des tâches, des responsabilités. Puis au fur et à mesure, on en apprend plus. Et ce faisant, le niveau de productivité augmente. Et on est capable de justifier un salaire plus élevé ailleurs, avec quelqu'un qui a besoin d'une personne ayant ce niveau de productivité-là. Puis encore une fois, c'est quelque chose qui est consensuel, qui est négocié de gré à gré. La loi, par contre, ce qu'elle vient faire, c'est de dire... Toi, le jeune de 16 ans, tu veux aller balayer dans une shop, t'es prêt à le faire pour 5$ de l'heure. Mais moi, je vous force à payer 10$ de l'heure. L'employeur va dire, ben, j'ai pas cet argent-là. Fait que le jeune, ben, tu feras rien. Puis comme de fait, ce qui est arrivé à Seattle, ce qui est arrivé dans toutes les places où on a mis des salaires minimum à 15$, c'est les jeunes qui écopaient. Puis quand on regarde qui sont les principaux utilisateurs du salaire minimum, près de 60% sont des jeunes en bas de 24 ans. La majorité des gens au salaire minimum sont des jeunes. C'est leur première job, leur job d'été. Vivent encore chez leur famille.
Oui, puis c'est intéressant, ça, surtout qu'on sait que la génération courante, ça tourne autour de 70% les jeunes adultes qui habitent encore chez leurs parents. C'est ceux qui n'ont pas le même niveau de dépenses que quelqu'un qui est marié avec un char et une maison.
Oui, bien, souvent, c'est qu'on va... C'est une tactique récurrente en politique de dépeindre le pire scénario possible pour justifier tous les autres. Alors là, on va parler... La mère monoparentale, sur le salaire minimum, n'arrive pas à faire vivre ses 6 enfants.
Mais est-ce que c'est vraiment la politique en ce moment ou est-ce que c'est plutôt les groupes de pression puis qui essayent de nous faire croire?
On peut appeler ça des groupes parapolitiques. Ce n'est pas des politiciens qui vont à la Chambre, mais les autres, ils influencent de l'extérieur par des manifestations. Puis dans le cas de Québec solidaire, c'est carrément leurs députés. Mais...
Québec solidaire, moi, oui, ben, Québec solidaire. Selon moi, c'est à peine des politiciens. C'est
ils font leur possible. Ils font ce qu'ils peuvent.
C'est vrai qu'ils font
leur possible. Mais quand tu regardes l'image catastrophique qu'on nous dépeint de la mère monoparentale qui n'arrive pas à faire vivre ses 6 enfants sous salaire minimum, ça représente à peu près 2% des gens sous salaire minimum. C'est-à-dire une personne adulte avec... dans une situation de monoparentalité avec un enfant mineur, c'est 2% des cas au Canada. Est-ce qu'on implante une politique mur à mur pour 2% des cas? C'est difficile à justifier. Ou du moins, est-ce que les coûts engendrés sur l'économie justifient les avantages que ça procure?
Mais ça laisse sous-entendre qu'il faut quand même trouver une solution pour... Ou est-ce que... Mais tu sais, si t'es purement capitaliste, tu vas dire que non. Que... C'est pas à nous à solutionner le manque de revenus pour la mère monoparentale et ses 6 enfants. Quoique la mère monoparentale avec ses 6 enfants, là, elle devrait recevoir plein d'argent du gouvernement. Là. Il y a des chèques d'enfants qui rentrent.
Mais le problème, c'est que souvent, ces chèques-là, dès que tu commences à gagner un petit peu trop, ils te les enlèvent.
Ouais, mais si tu travailles au salaire minimum, ils te les enlèvent pas. Là.
Ça dépend. Il y en a certains qui commencent à débarquer. En fiscalité, là, on punit beaucoup le travail. Ce qui est un peu contre-productif.
En tout cas, moi, je me fais punir tous les 2 semaines.
Non, mais c'est parce qu'on donne un incitatif aux gens à travailler moins, alors qu'on devrait les inciter à travailler plus. Mais pour revenir à ce que tu disais sur si t'es capitaliste, tu devrais laisser les gens dans le trou. Au fond, c'est ça que ça voulait dire. Là. Mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que si on remarque l'époque durant laquelle le plus d'organismes de charité ont émergé, quand on parle au YMCA de ce monde, toutes les grosses organisations caritatives communautaires, là, ancrées dans un milieu de vie qui venait aider des gens puis qui étaient financées par les dons des méchants riches, ben c'est au 19e siècle, qui est sans doute l'époque récente où il y avait le moins d'interventionnisme d'État.
Mm-hmm. Il y en avait très peu.
Très peu, mais mettons que tu es une personne à succès. Tu as eu ton entreprise toute ta vie, tu as travaillé fort, tu veux léguer quelque chose à la société, tu veux que les gens se souviennent de toi, tu veux laisser une marque plus intéressante que le nom d'une usine dans le quartier industriel. Tu vas faire un don à une bibliothèque, tu vas faire un don à un hôpital, à une école, à un organisme communautaire comme le YMCA. Tu vas donner de l'argent à des soupes populaires. Puis comme de fait, les grandes fortunes au 19e siècle ont largement contribué à leur communauté de cette façon-là. Aujourd'hui, le tissu social s'est beaucoup effrité, on s'en remet beaucoup à l'État. L'État prend de plus en plus de place dans l'économie et on se dit un petit peu « Mais pourquoi moi je ferais quelque chose quand le gouvernement peut le faire à ma place? » Dans le cas du salaire minimum, je suis d'accord qu'il y a des cas qui sont tragiques et qui sont très pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres, puis je pense pas que le salaire minimum les aide.
Non, c'est que non.
Le salaire minimum, c'est pas une loi qui donne un job, c'est pas une loi qui améliore des conditions de travail tant que ça. C'est une loi qui vient réguler qui a le droit de travailler et qui n'a pas le droit de travailler. Et même si toi, tu es prêt à travailler pour un salaire un peu plus bas, si tu as moins d'expérience, mais tu peux pas. L'exemple typique qu'on va donner, là, c'est la grande frustration de beaucoup d'étudiants. Ils sortent de l'université, 0 expérience. Mm-hmm. Puis là, on leur dit, ben là, nous, on demande 3 ans d'expérience. Là, les étudiants disent, ben là, comment je fais pour avoir de l'expérience? Tous les jobs me demandent de l'expérience. Puis là, on leur répond, il y a plein de gens qui leur répondent dans leur grande sagesse, ben fais du bénévolat. Puis c'est exactement ça.
Ouais. Ouais.
Leur niveau de productivité ne justifie pas le salaire attendu dans le marché, fait qu'il faut qu'ils travaillent gratuitement.
Puis en fait, du bénévolat, c'est du travail au salaire au salaire de zéro
dollar. Ben oui, mais il y avait des cas là, de stagiaires là, chez Bell il y a quelques années qui étaient payés rien. Pour l'expérience. Ben,
moi, je regarde les stagiaires qu'on paye à notre bureau. Là. Puis nos stagiaires sont extrêmement, extrêmement bien payés pour le très peu d'expérience qu'ils ont. Puis, en quelque part, puis je le sais, parce que j'ai déjà eu personnellement été responsable de stagiaires, c'est pas juste du travail qu'ils font. Là. Il y a une énorme partie de ce qu'ils font, c'est de l'apprentissage. C'est moi, on agit en tant que mentor, on leur montre des choses. En fait, on leur apprend à travailler dans ce milieu-là. Mais si on veut des stagiaires, puis nous, c'est clair qu'on en veut, on n'a pas le choix. Parce que nous, on embauche principalement dans mon département, là, principalement des ingénieurs informatiques. Fait que si on veut les meilleurs, on n'a pas le choix, il faut qu'on les paye, sinon on va se retrouver avec les bas de classe. Puis les...
Oh, est-ce qu'il y a de la compétition pour les avoir?
Il y a de la compétition pour les avoir.
Puis, c'est exactement ça, c'est que le marché, c'est quelque chose qui s'équilibre assez bien. On en parlait avec l'épisode sur la gentrification. Ouais. Les gens bougent avec leurs pieds, les gens choisissent en fonction de leurs intérêts et dans la poursuite de leur intérêt personnel, améliorent la communauté. Une personne, si on prend le cas typique, dit « Moi, je suis capable de faire ça. Qui en a besoin? » Puis, si jamais il y a tellement de gens qui veulent avoir cette personne-là, ben les prix montent. Puis, si personne n'en veut, ben les prix baissent. Puis, ça finit par s'équilibrer quelque part au fil du temps. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Là. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas le gouvernement qui arrive avec un prix et dit « Bon, c'est ça! » C'est quelque chose qui est variable, qui change dans le temps, puis qui s'équilibre pour s'ajuster aux aléas peuvent survenir. Par exemple, si soudainement il y a une nouvelle compétence qui devient inestimable, va avoir beaucoup de recherches pour trouver ces gens-là, les recruteurs, les chercheurs de tête vont faire le tour de LinkedIn pour les spotter, et on leur offrir beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Mais si on prend le cas de quelqu'un au salaire minimum, quelqu'un dans une shop cherche quelqu'un pour passer le balai. Il dit, bon, ben, qui veut passer le balai, guys? Je vous offre 5$ de l'heure. C'est ça que je pourrais payer. Mettons, si on a un scénario peut-être où il n'y a pas de salaire minimum, là. 5$ de l'heure. Qui est prête? C'est sûr que tu vas trouver un kid de 16 ans qui va être prêt à le faire. Juste pour l'expérience, pour dire « Ah, je vais aller dans la place, voir comment ça se passe, serrer des mains, parler à du monde. » Puis la formation à l'entreprise, là, c'est l'essentiel de la formation qu'une personne va recevoir dans sa vie. Là. Elle va passer 3-4 ans à l'université, peut-être un peu de cours en continu par la suite, mais la formation à l'entreprise, c'est ça qui façonne une carrière au final. Puis
t'apprends pas ton travail à l'école.
Non.
Je regrette. Là, peut-être si t'es mécanicien, là, puis encore. Mais
ça s'apprend beaucoup sur le tas.
Ça s'apprend beaucoup sur le tas. Moi, en tant qu'informaticien, quand je suis arrivé dans ma première job, mon employeur, il a dit « Bon, mais là, maintenant, tu vas apprendre les vraies affaires.
Ouais. »
Puis j'ai appris les vraies affaires. Ça a été le début de le vrai apprentissage.
En fait. Ouais. Puis les lois sur le salaire minimum privent les travailleurs les moins qualifiés de cette formation essentielle à leur développement. Parce qu'on leur dit, mettons que toi, tu es capable de te faire payer 5$ de l'heure. Le marché dit, je suis prêt, selon ce que tu es capable de faire, là, 5$ de l'heure, 9$ de l'heure, c'est bien beau. Tu n'as pas le droit parce que je le dis. C'est purement arbitraire. Même si toi, tu es prêt, l'autre est prêt de payer, vous avez une relation consensuelle, vous êtes tous les deux d'accord, tu n'as pas le droit. Et moi, je suis plus d'avis qu'il faut laisser les gens décider. Parce que le problème, là, puis ça, c'est un article qui est paru dans le journal, il y a quelques semaines, peut-être que certains vont l'avoir vu passer, des recruteurs clandestins dans Saint-Michel. Les gens sans emploi se ramassaient au McDo de Saint-Michel. Puis vers 5-6 heures du matin, quelqu'un en bus passait pour les amener dans des champs. Ça se faisait à l'extérieur des lois du travail. Payait beaucoup moins cher qu'à salaire minimum. Mais ça, c'est une manifestation du marché. Quelqu'un est prêt à travailler à ce salaire-là, quelqu'un est prêt à aller payer ce salaire-là pour une job donnée. Et les gens le font. Là, on peut dire, ah oui, les gens, ils sont désespérés, ils n'ont pas le choix. C'est comme, oui, ils ont le choix. Mais le choix qu'ils ont, c'est celui-là qui leur apparaît le meilleur, sinon, ils ne le feraient pas. C'est, en fait, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'il y aurait ensuite? On ne peut pas forcer un employeur à les embaucher à un salaire qui n'est pas correspondant à leur niveau de productivité. En réalité, quand on essaie d'aider ces gens-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les exclut du marché, puis ils se ramassent en marge, où des gens vont en profiter.
Ouais, mais le problème qu'il y a avec ton exemple de Saint-Michel, c'est que les gens vont dire que là, c'est des travailleurs qui se font exploiter, en fait. C'est du travail au noir, donc oui. Il y a comme une retenue salariale qui n'est pas faite.
Il est au noir parce que le gouvernement a mis une loi.
Oui.
Autrement, il serait légal.
Mais dépendamment de combien tu les payes, puis là, être courbé dans un champ, là, au soleil, à travailler vraiment à la sueur de ton front, c'est quasiment de l'esclavage moderne, dans un sens. Puis c'est un peu ça que je pense que l'argument de la gauche, ça serait ça, c'est de dire que ben là, c'est de l'exploitation humaine, c'est pas juste, c'est pour ça que ça prend le salaire minimum, parce que regarde, dès qu'on enlève le salaire minimum, t'as les employeurs qui vont exploiter certaines ressources.
Mais l'argument est pas bon, parce que l'argument...
Alors, comment ça, l'argument est pas bon?
L'argument est pas bon parce que, dans les faits, malgré le salaire minimum, les gens vont être acceptés de travailler pour moins cher. Puis la seule façon de le faire, c'est de travailler au noir.
Moi, je suis d'accord que, oui, la seule façon de le faire, c'est de travailler au noir. Sauf que le problème, c'est que même s'il n'y avait pas de salaire minimum, même si, mettons, le salaire minimum était très, très, très bas ou qu'il n'y en avait pas, ils travailleraient probablement au noir quand même. Il y a des avantages à travailler au noir tant que tu ne te fais pas pogner. Pour l'entreprise qui est là. T'sais, en plus, c'est un désavantage d'un point de vue de la CSST. On s'entend que ces gens-là sont plus aptes, peut-être pas plus aptes, mais les probabilités de se blesser sont plus grandes sur le travail. Là, ils ne sont pas assurés. Ça peut engendrer toutes sortes de problèmes. Donc, moi, je vois ça vraiment comme une exploitation de la ressource là, de ce point-là. C'est une exploitation de l'humain. L'autre côté de ça, puis je le sais parce que j'ai grandi sur une ferme. Mon père a été fermier jusqu'à tout récemment. Puis, c'est pas évident de trouver la main-d'œuvre pour le faire, le travail. Il n'y a pas tant de... Bon, là, on va parler du Québec. Il n'y a pas tant de Québécois que ça qui passent toute leur vie à travailler au salaire minimum. Je pense pas qu'il y en a tant que ça.
C'est une minorité de gens.
C'est une minorité de gens.
On parle d'après 5 % des gens là, qui sont perpétuellement sous le salaire minimum.
Exactement. Donc, je ne suis pas prêt à dire que c'est un problème vraiment pour notre société à ce point-là. Le problème que ça donne, par exemple, c'est que les entrepreneurs ne trouvent pas nécessairement les ressources qu'ils ont besoin pour exploiter leur entreprise. Comme les fermiers, c'est pas juste... C'est un problème au Québec. Là. On fait venir de la main-d'œuvre de d'autres pays. Le gouvernement canadien a un programme de visa expressément pour ça, les employés saisonniers qui viennent à chaque année pour faire les récoltes, travailler dans des manufactures de poissons. Moi, dans le village où j'ai grandi, il y a eu une invasion de Jamaïcains à tous les étés depuis quelques années parce qu'il n'y a personne qui veut travailler dans les usines de poissons.
Parce que les gens ont d'autres options.
Les gens ont d'autres options.
Puis, pour ces gens-là, c'est très avantageux parce que... avec l'équivalent du taux de change de leur pays, peut faire en quelques mois un excellent revenu annuel.
Fait qu'on est-tu en train de se dire, finalement, que c'est un faux débat, en quelque part?
À mon sens, oui. À mon sens, le salaire minimum, c'est une façon de se positionner avantageusement sur le plan social en disant « J'ai des bonnes intentions de vouloir aider les gens, puis je suis pas tant intéressé à savoir c'est quoi les effets réels. » Parce que ce qu'on remarque, la ville de Seattle, qui est une ville démocrate depuis des années...
Et très progressiste.
Très, très progressiste. Ils sont pas intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont enlevé les fonds à l'équipe de recherche qui suivait leur ville depuis 2015. Le point, c'est de dire, est-ce que ça aide du monde ou ça leur nuit? Puis l'exemple que tu soulevais avec les travailleurs étrangers qui viennent ici de façon saisonnière, moi, je pense que ça leur nuit plus que d'autres choses. Parce que peut-être qu'on pourrait donner plus de jobs à plus de monde... Puis il y aurait peut-être des gens qui accepteraient à travailler dans ces conditions-là quand même. Le but, c'est que ce soit consensuel. C'est qu'il y a un employeur qui dise « Moi, je suis prêt à payer tant, qui est intéressé? » Si quelqu'un lève la main et dit « Moi, ça me tente », pourquoi est-ce que l'État viendrait s'interposer entre ces deux personnes-là? Je comprends l'argument des rapports de force. je comprends l'argument de dire une personne peut ne pas avoir le choix. Mais des fois, effectivement, on n'a pas beaucoup d'options dans la vie. Puis c'est en travaillant qu'on arrive à élargir ses options. Mm-hmm. C'est en travaillant. C'est jamais une chose sur laquelle la gauche et la droite s'entendent, c'est qu'on se réalise beaucoup par le travail. Faut travailler dans la vie, ça nous rend... On se rend utile. Puis c'est en travaillant qu'on apprend, puis qu'on est capable ensuite de justifier un plus gros salaire. Parce qu'on est plus productif, on est meilleur, on est plus rapide, plus efficace. Mais ça va ensemble. Au Canada, là... L'Alberta s'est engagé à mettre un salaire minimum à 15$. L'Ontario s'est engagé à mettre un salaire minimum à 15$. Le Québec a refusé. Ça, c'est intéressant. Parce que, généralement, le Québec aurait été dans l'autre camp.
C'est ça. D'habitude, c'est c'est plus les tendances québécoises de mener ce genre de problème. Pas de problème, là, mais de charge sociale.
Puis je suis quand même content, parce que présentement, ça faisait longtemps là, que j'ai pas pu dire ça, mais le Québec est en très bonne position économiquement à travers le Canada. Il se passe pas grand-chose, là. Il se passe pas grand-chose, mais c'est quand même mieux que ce qui se passe dans d'autres provinces. On balance le budget dans une relative paix sociale.
Ouais.
Et c'est équilibré, ça avance tranquillement. Puis ça donne de la confiance aux investisseurs, aux entrepreneurs. Et bon an, mal an, les choses avancent.
Mais il y a un danger qui s'en vient. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il va y avoir une révolution du travail là, dans les preuves. Puis on va l'avoir de notre vie, en tout cas.
Ah, ça a déjà commencé, en fait.
Dans les prochaines 10-15 ans, là, il va y avoir une transformation majeure dans comment l'économie fonctionne, puis le travail, comment le travail est effectué. Il va y avoir une robotisation et une automatisation énorme. On va perdre probablement des millions de jobs. Là, puis c'est des industries au complet qui vont être automatisées. Tu penses les chauffeurs de camions, les chauffeurs de métro, ça devrait plus exister déjà. Déjà à Vancouver, il n'y en a pas de chauffeurs de métro, ça se fait tout seul. Il y a beaucoup de travail qui va disparaître. Même il y a certains journalistes maintenant qui pourraient se faire remplacer. Il y a des programmes qui sont capables d'écrire des articles de journal, t'imagines?
Mm-hmm.
Les jobs vont commencer à disparaître. Mm-hmm. Et mec, quand ça va commencer, là, ça va être rapide. Fait que ça va affecter notre débat sur le salaire minimum. Parce que peut-être que ça va créer une pénurie d'emplois, dans le sens où il y aura le taux de chômage sera tellement élevé que ça ne peut pas faire autre que de baisser le salaire que les employeurs vont être obligés que les employeurs voudront payer, parce que la loi de l'offre et la demande est assez claire. S'il y a une grande demande pour du travail, ben les employeurs vont être capables de baisser leur salaire. Puis là, on va avoir encore plus d'iniquité au point de vue de la richesse. Moi, je pense que ça va s'empirer avant que ça s'améliore. J'ai l'impression qu'il va y avoir une passe très difficile à un moment donné, là, puis on va la voir bientôt.
On verra en temps et lieu. C'est pas la première transformation majeure du travail qu'il y a eu. On parle de l'industrialisation. Là, quand on remonte de 150 ans en arrière, tu avais 99% de la population qui vivait dans les champs, puis en dedans de quelques décennies, tout le monde était rendu en ville, dans des shops. J'imagine qu'à l'époque, il devait y avoir des gens aussi qui criaient à l'apocalypse. Mais au final, dans un marché libre, les choses finissent par s'équilibrer, puis ça finit généralement par se stabiliser autour de quelque chose qui fonctionne. Sinon, au pire, ce sera le chaos. C'est bon.
tu dis ça, mais en même temps, on a des facteurs en ce moment qu'on n'avait pas à cette époque-là. Tu sais, la planète, il n'y avait pas 8 milliards d'habitants. Tu sais, on ne faisait pas face à une crise de changement climatique. Il y a beaucoup de facteurs en ce moment qui, à l'époque...
Non, à l'époque, il y avait juste beaucoup de guerres puis des famines. Puis les gens vivaient avec une pièce par jour en dehors de 2010.
Oui, mais ils vivaient avec une pièce par jour, mais il n'y en avait pas besoin non plus de 50 000 dans l'année pour survivre.
À l'époque, c'était la misère, là, la mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans. Là, c'était stratosphérique.
Ouais, mais on ne l'a pas parce qu'on est au Canada.
Là, même au Canada?
Ça existe
en Occident. En 1890,
oui.
Il gagnait pas beaucoup.
Mais moi, je te parle de en 2017.
Juste pour finir sur le salaire minimum, clairement, on n'a pas fini.
Clairement, ben, on va finir. On pourrait en discuter jusqu'à l'année prochaine.
Puis je suis d'accord que ça va, qu'on fait face à des importantes transformations du marché du travail. Le problème, c'est que les lois sur le salaire minimum, puis les lois du travail de façon plus générale, ne font qu'accélérer ce processus-là parce que ça devient avantageux d'accélérer le processus de mécanisation, d'automatisation, ouais. ou encore de sous-traiter la production dans des pays qui coûtent moins cher. Hey, ça aussi, c'est un enjeu. Ouais. Est-ce que nos travailleurs sont compétitifs? Parce que si tu peux faire faire la même job par une personne qui est prête à travailler moins cher, je vois pas grand monde qui le feront pas. Hein? Pour la même raison que les gens vont magasiner leurs services de téléphonie, ouais. les gens vont magasiner les rabais sur les drumsticks puis sur les petites côtelettes de porc, ben les gens vont magasiner le prix de leurs employés. Puis s'ils trouvent du monde prêt à travailler moins cher dans d'autres pays, ben vont aller les faire faire là-bas.
Merci d'avoir été là. Je vous rappelle, vous, nos fidèles auditeurs, je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On va envoyer un clin d'œil particulier à Luc Leclerc. J'espère que tu t'es rendu au bout, Luc, parce que vraiment, on adore tes commentaires sur notre site. Merci à tous ceux qui ont commenté. On apprécie ça. Québécois.ca, venez nous voir là, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir partout. Likez-nous, envoyez-nous chier. C'est pas qu'on n'a pas de problème avec ça. Mm-hmm. On aime ça, en fait, puis ça nous garde occupés.
Puis si vous pensez que je suis le mal incarné, qu'on soit un hôtel, puis faites une cérémonie contre moi.
Tu fais pas de poule parce que vous aurez pita contre vous autres.
Quoi qu'il n'a pas mal dans Rosemont des poules.
Merci tout le monde. À la prochaine.
Bonne semaine.